Jean Beaufré, dans cette 9e émission, nous invite à penser plus profondément l'ère de la technique et de la science et à remonter jusqu'à la source de notre philosophie pour mieux comprendre notre temps et chercher un nouveau rapport avec la dimension oubliée de l'être. Pourquoi la vérité en grec, le terme aletheia, est-elle devenue, depuis Descartes, synonyme de certitude? Jean Beaufré. L'œuvre de Heidegger ne débouche pas sur une conception du monde ou sur une de ces solutions aujourd'hui réclamées de toutes parts. Vous avez dit un jour à la Maison des Lettres que vous avez mis quelque 20 ans à arriver au contact des difficultés qui sont au centre de la pensée de Heidegger. Or, cette pensée n'a cessé de tendre à cette dimension perdue de vue par toute une histoire qu'est la contrée de l'aletheia. Aletheia, mot grec fixé par sa traduction romaine dans le mot veritas, vérité. Si l'on suit le chemin de pensée de Heidegger, comment comprendre que c'est en pressentant dans ce que nous entendons aujourd'hui par vérité, en pressentant la dimension grecque oubliée de l'aletheia, que l'on parvient à un questionnement plus radical sur le destin de notre temps?
L'épisode essentiel de l'histoire, qui débute avec l'aletheia des Grecs, n'est pas tant sa fixation dans le latin veritas que, à l'origine du monde moderne, la mutation cartésienne de la vérité en certitude. N'est vrai, selon Descartes, que ce qui nous est certain. Or, font deux, celui qui, par exemple, est certain d'avoir la mer devant lui, parce que ses sensations visuelles, olfactives, auditives et tactiles ne peuvent s'expliquer qu'à partir de là, et celui à qui la découverte devant lui de la mer arrache le cri que, parvenu au fait d'une hauteur, les soldats de Xénophon poussèrent, paraît-il, d'une voix unanime, « Thalassa, la mer ». Or, qui est davantage devant la mer? Le cartésien, quand il en est sûr et certain, ou le soldat de Xénophon à qui elle se découvre? À vrai dire, ce qui se découvre est beaucoup plus, et non pas moins, que ce qui ne nous est que sûr et certain. Mais c'est même en géométrie que déjà il en va ainsi. Pour Descartes, la vision n'est plus qu'un motif de jugeote, pourrait-on dire. Et c'est pourquoi il est, lui, sûr et certain de ce qu'a Pythagore, dans la figure de son théorème, c'était bien plutôt découvert, au sens où le paysage se découvre à qui s'élève assez pour que le premier plan ne fasse plus écran à l'arrière-plan. Ici, la découverte est le tout de la chose, non une simple occasion d'en juger. C'est-à-dire, ajoute impavidement Descartes, une licence de nous dédire même d'une vérité tout à fait claire, pourvu seulement que nous pensions que c'est un bien de témoigner par là de notre liberté. Car Descartes est comme ça. Au fou, aurait dit Pythagore, voyons, monsieur Descartes, du calme. Toute la question est de savoir pourquoi Descartes est comme il est, c'est-à-dire aux yeux des Grecs un forcené, à savoir l'ancêtre direct de celui que Nietzsche évoque dans le Gai Savoir et qui annonce que Dieu est mort, Pourquoi donc Descartes est-il celui à qui la certitude à laquelle il aspire éclipse la letheia? Non pas sans doute totalement, mais de façon telle qu'il n'en garde que juste ce qu'il faut pour monter en son lieu et place son dispositif de certitude. Ici, Heidegger ne réfute nullement Descartes, mais il le voit pour la première fois dans toute son étrangeté, étrangeté qui nous est devenue comme une seconde nature au point que Husserl, à la suite de Hegel, ne pourra voir en Descartes qu'un point de départ radical de toute philosophie.
Mais alors, lorsque dans le titre du discours de la méthode, Descartes parle de chercher la vérité dans les sciences, cela veut donc dire chercher la certitude dans les sciences. Mais d'où vient donc à Descartes cette nécessité d'accentuer en certitude le terme de vérité?
C'est toute une histoire. Reprenons la question. Ce que vous me demandez, somme toute, revient à ceci. Pourquoi donc Descartes a-t-il besoin de substituer à la découverte grecque des choses une certitude à leur égard, la synonymie de vérité et de certitude ayant sa source dans Descartes et non ailleurs? Parce que, dit Heidegger, une dimension antérieure de la vérité elle-même, celle dans laquelle la chose nous apparaît sans plus à découvert, a disparu. Mais quand? Il y a beau temps. Platon évoque déjà énigmatiquement dans Le Banquet un exode du savoir et avec lui de la letheia. Alors, c'est à nouveau, comme il dit, le pays de la letheia, le pays du retrait de tout, avec, dira-t-il à la fin de la République, son grand vide d'arbres et de tout ce qu'une terre peut faire croître. On traduit souvent l'été par oubli. On le peut légitimement, à condition d'entendre précisément par oubli ce grand retrait de tout que Thucydide lui aussi évoqua dans sa description de la peste d'Athènes. Ceux qui en réchappaient, dit-il, à peine sur pied, alors c'était l'oubli de tout qui se saisissait d'eux à égalité. Cette formidable amnésie, c'est ce que l'on appelle parfois la fin du monde antique. Dès lors, nul n'a plus à quoi ni à qui se fier. C'est dans un tel élément que se déploie, dès la mort d'Aristote, la résignation sceptique, l'effort impuissant du stoïcisme, le repli des épicuriens sur leur portion congrue, et qu'enfin prend naissance le christianisme, appelé à faire une telle carrière dans le monde, en lui révélant enfin à qui se fier. Eh bien, Descartes est essentiellement, il le dit lui-même, un philosophe chrétien. Sans doute prétend-il, à la différence de la patristique ou de la scolastique, philosopher par la raison naturelle sans la lumière de la foi. Mais la raison naturelle, telle qu'il l'entend, est pétrie de la foi qu'elle entend suppléer. C'est tout le sens du virage invisible de la vérité en certitude. Dans son effort pour revenir du Christianus factus, comme il dit, de l'homme fait chrétien, à l'homo natus, à l'homme en tant que né homme, c'est tout l'héritage de la foi chrétienne que Descartes reprend à son insu jusqu'à le radicaliser dans son interprétation de la vérité comme certitude qui le place dans un tout autre monde que celui des philosophes grecs, c'est-à-dire dans un monde que sépare de celui qui l'a précédé l'animosité ombrageuse de saint Paul pour la philosophie grecque. C'est là, dit Heidegger, un phénomène dont nous ne mesurerons jamais assez énormément l'énormité. Et c'est pourquoi il ajoute textuellement « La métaphysique moderne de Descartes à Kant et, au-delà de Kant, même la métaphysique de l'idéalisme allemand et même, peut-on ajouter, celle de Nietzsche, sont impensables sans les représentations fondamentales de la dogmatique chrétienne. »
Nous sommes donc les héritiers de cette interprétation cartésienne de la vérité comme certitude, interprétation dans laquelle, dites-vous, le christianisme paraît jouer un rôle déterminant. Mais nous sommes aussi les hommes d'un monde, du monde de la technique moderne. Comment articuler ensemble tant de diversité?
Vous me demandez, somme toute, quel rapport y a-t-il au juste entre le monde de la certitude cartésienne et le monde de la technique moderne? Serait-il donc, comme dirait Nietzsche, lui-même souterrainement chrétien? En un sens, oui, mais au sens où l'est Descartes, car, c'est bien connu, rien n'est moins conforme que le monde de la technique moderne à l'éthique chrétienne. Or, c'est à vrai dire la mutation de la vérité en certitude qui est le moteur invisible de la promotion des mathématiques en un premier plan, en qualité de quoi elles deviennent la clé de toutes les autres sciences. Et c'est cette promotion qui rend possible le monde de la technique comme monde du calcul universel de l'étang et finalement de la mobilisation totale de l'étang nommé homme dans la double figure du producteur et du consommateur. Aucun despotisme, avait dit Ernst Jünger dans son livre Der Arbeiter, Le Travailleur, aucun despotisme n'a jamais pu rêver pareille mobilisation qui, sous nos yeux, s'étend cependant à tout, à petit bruit. Il n'y a pas besoin ici d'affiches, comme en 1914, les célèbres affiches blanches qui proclamaient la mobilisation générale. Le monde, dit Zarathoustra, gravite en silence. Là où les uns applaudissent, les autres vitupèrent. D'autres, enfin, prétendent régler moralement le processus. Et même religieusement, la vraie morale prenant sa source dans la religion. Heidegger nous dit au contraire, même la morale, avec ses doctrines et ses injonctions, est impuissante aussi longtemps que l'homme ne sera pas capable de parvenir à un nouveau rapport avec l'être. Il s'agit d'un rapport qui permettrait de décider non pas si quelque Dieu est ou existe, comme dit Descartes, mais bien si l'être, encore une fois, deviendra capable d'un Dieu. Mais ce nouveau rapport à l'être, ce n'est pas par le travail des futurologues qu'il peut se laisser annoncer, mais en un sens diamétralement inverse, par la remontée jusqu'au fondement même de la métaphysique, remontée beaucoup plus dépaysante que ne l'a jamais soupçonné aucun de ceux qui se bornèrent à en suivre le dévale, à savoir aucun des historiens de la philosophie. C'est sur le chemin de cette remontée que Heidegger nous montre Descartes dans toute son étrangeté, que le christianisme lui devient manifeste comme l'une des composantes d'une coalition de l'héritage grec et de la Bible, coalition que désignera plus tard le terme de scolastique, et que la philosophie grecque lui apparaît enfin, c'est-à-dire initialement, comme une énigme. Il n'en savait pas tant lors de la publication de Sein und Zeit, être et temps, sauf à titre de pressentiment. Mais qu'en résulte-t-il ? Rien, bien sûr. Cela n'empêche ni les gros poissons de manger les petits, ni la terre de tourner, ni même les hommes de se faire la guerre. Se pourrait-il cependant qu'après un tel ébranlement du sol, et pour tout dire un tel séisme, tout demeura comme avant? Ce serait à désespérer de tout. Heidegger ne désespère nullement, mais l'approche qu'il tente est une longue patience, au sens du vers de Shakespeare dans Macbeth, longue est la nuit, à n'en pas finir de trouver le jour.
Ce n'est donc pas en nostalgique du passé que procède Heidegger. Son retour à Mont est en réalité ce coup de sonde dans le futur que Chateaubriand appelait futurition.
Moins futurition que préparation à un avenir possible, et si l'on veut, une longue veille comme la veille d'armes du futur chevalier. C'est ce que Heidegger appelle souvent attendre. L'attente, aux antipodes de toute procrastination, lui fut un long apprentissage. Écoutons-le lui-même en parler dans un passage de la conférence qui fut lue en 1964 à l'UNESCO sous le titre « La fin de la philosophie et la tâche de la pensée ».
Une telle pensée demeure nécessairement bien en deçà de la grandeur des philosophes. Elle est bien moindre que la philosophie. Moindre aussi parce qu'à cette pensée, encore plus résolument que jusqu'ici à la philosophie, aussi bien l'action immédiate que l'action médiate sur le domaine public qui porte l'empreinte de la science technicisée de notre époque industrielle ne peut qu'être refusée. Mais avant tout, cette pensée, fût-elle seulement possible, demeure bien peu, car sa tâche n'a que le caractère d'une préparation et nullement d'une fondation. Il lui suffit de provoquer l'éveil d'une disponibilité de l'homme pour un possible, dont le contour demeure obscur et l'avènement incertain. Ce qui demeure pour la pensée garder en réserve, savoir s'y engager, voilà ce que la pensée doit d'abord apprendre. En tel apprentissage, elle prépare sa propre transformation. Il est ici pensé à la possibilité que la civilisation mondiale, telle qu'elle ne fait maintenant que commencer, surmonte un jour la configuration dont elle porte la marque technique, scientifique et industrielle, comme l'unique mesure d'un séjour de l'homme dans le monde. Qu'elle la surmonte, non pas bien sûr à partir d'elle-même et par ses propres forces, mais à partir de la disponibilité des hommes pour une destination pour laquelle en tout temps un appel, qu'il soit ou non entendu, ne cesse de venir jusqu'à nous, hommes, au cœur d'un partage non encore arrêté. Non moins incertain demeure ceci. La civilisation mondiale sera-t-elle d'ici peu soudainement détruite? Ou bien va-t-elle se consolider pour une longue durée, sans aucun repos dans ce qui demeure, mais bien plutôt vouée à s'organiser en un changement continuel où le nouveau fait place à toujours plus nouveau? La pensée qui n'est que préparation ne veut ni ne peut prédire aucun avenir. Elle tente seulement, face au présent, de faire entendre en un prélude quelque chose qui, du fond des âges, juste au début de la philosophie, a déjà été dit pour celle-ci, sans qu'elle l'ait proprement pensé.
La pensée de Heidegger nous achemine donc à une préparation, non à une fondation. Pour lui, la tâche de la pensée, c'est ni plus ni moins de provoquer l'éveil d'une disponibilité de l'homme pour un possible. Mais ce possible, on le trouve parfois bien vague. Comment le cerner davantage?
Vous me faites penser ici à Merleau-Ponty, qui, au moment où je reçus la lettre sur l'humanisme, se plaignait de l'horreur qu'avait Heidegger, disait-il, de mettre les points sur les i. En réalité, je crois qu'il n'est pas possible de cerner les choses plus que ne l'a fait Heidegger lui-même dans toute son œuvre, ou sans souci de n'être pas un simple traînard de l'origine, et également celui de ne pas devenir un prématuré de l'avenir. L'exercice qu'il préféra à tout autre dans toute sa carrière d'enseignant, c'est celui que les Allemands appellent le séminaire. Un séminaire, dit-il un jour, un séminaire, comme le terme l'indique, est lieu et occasion de répandre ici et là une graine, un germe de méditation qui, on ne sait quand et à sa guise, pourra éclore et fructifier. Et antérieurement, il avait dit, avant les semailles, et ici il évoquait le séminaire, avant les semailles, il y a le labour. Il y va de rendre fertile le champ qui, du fait de l'inévitable prédominance du terrain exploité par la métaphysique, était voué à demeurer dans l'inconnu. Il s'agit d'abord de pressentir où est ce champ, puis de le trouver et ensuite de le cultiver. Il s'agit avant tout d'aller une première fois jusqu'à lui. Les chemins encore inconnus qui y mènent sont nombreux, mais à chaque penseur, un seul chemin est assigné en propre, le sien, sur la lancée duquel il lui faudra avancer toujours en incessant va-et-vient jusqu'à le tenir finalement comme son chemin, bien qu'au grand jamais il ne lui appartienne, et ceci pour dire ce qu'il lui est donné d'apprendre en suivant ce chemin.
Un temple grec n'est à l'image de rien. Il se tient là, simplement debout, au cœur de la vallée entaillée dans la roche. L'édifice entoure la figure du dieu et, dans cette retraite, la laisse paraître à travers l'espace ouvert des colonnes dans son appartenance à l'enclos sacré. C'est par le temple que le dieu est présent dans le temple. Cette présence du dieu est elle-même l'extension et la délimitation de l'enclos comme un enclos sacré. Dressé dans sa stature, l'édifice repose sur l'assise rocheuse. C'est ce repos de l'œuvre qui manifeste à partir de la roche l'élément obscur de sa force portante, réfractaire, et qui cependant ne s'empresse vers rien. De toute sa stature, l'édifice tient bon face à la tempête qui s'acharne vers lui, et c'est ainsi qu'il fait paraître la tempête elle-même dans toute sa violence. La lumière et l'éclat de la pierre qui ne s'anime elle-même que de la grâce du soleil, c'est cependant elle et elle seulement qui amène à se déployer la clarté du jour, l'ampleur du ciel, les ténèbres nocturnes. La sécurité d'implantation du temple rend visible l'apparence de l'espace aérien. Ce qu'il y a d'inébranlable dans l'œuvre fait front aux vagues du flot marin et à partir de son calme en laisse paraître la colère. L'arbre et l'herbe, l'aigle et le taureau, le serpent et le grillon n'entrent que par lui dans leur forme qui se détache pour resplendir en ce qu'ils sont. Cette manifestation, cette éclosion selon la dimension du tout, les Grecs, dès l'aube, l'ont nommé Physis. Dressé dans sa stature, le temple ouvre un monde et le restitue en même temps sur la terre qui ne devient elle-même et ne se manifeste comme terre que comme cette assise native. Heidegger.